France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit une véritable légende du rap français, Pete Bacardi, un artiste qui a marqué l'histoire du mouvement aussi bien en solo qu'au sein du collectif emblématique du secteur rap. Son parcours, c'est celui d'un pionnier venu du Cameroun, installé à Paris et qui s'est imposé comme l'une des plumes et des voix incontournables des années 2000. Il a signé des classiques, accompagné l'évolution du rap francophone, mais aussi travaillé dans l'ombre comme producteur et passeur, toujours attentif à la nouvelle génération. Aujourd'hui, il continue de faire vivre sa musique et son héritage sur scène. Le 25 septembre prochain, c'est à l'Olympia qu'il se produira, une date qui s'annonce comme un moment fort pour tous les amoureux de rap. Ce soir, on revient sur son parcours, ses projets, sa vision du rap d'hier et d'aujourd'hui. Un invité spécial, Pete Bacardi, à la régulière.
France Inter. À la régulière. Mehdi Maizi.
Bonsoir Pete.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Très bien. Je suis content que tu sois là.
Merci pour l'accueil.
C'est normal, c'est la moindre des choses. On se voit entre autres parce que il y a l'Olympia le 25 septembre. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est pas la première fois, on va en parler, que tu foules le sol de l'Olympia, mais qu'est-ce que ça représente pour toi de la faire en solo comme ça en 2025?
Bah écoute, j'ai l'impression de me répéter, mais je le vis comme une bénédiction parce que chaque fois qu'on me pose cette question, c'est la même réponse que j'ai, parce que c'est la réalité. Je le vis comme une bénédiction, comme une chance de pouvoir encore avoir la prétention de faire une salle aussi mythique.
Ouais.
Et surtout de rassembler tous les fans de la première heure et des nouveaux fans aussi, parce que je me rends compte grâce aux réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de gens de la nouvelle génération qui sont impatients de me voir sur scène, donc ouais. C'est vraiment un plaisir.
Et qui t'ont découvert comment, peut-être via les plateformes de streaming?
Il y en a beaucoup qui m'ont découvert récemment avec Chiffre Romain que j'ai fait avec Dosset.
Tout à fait. Dosset qui on peut le dire est... S'il y a encore des gens qui ne le savent pas.
Et il y en a qui m'ont découvert sur la partie africaine. Il y en a qui m'ont, oui. Des gens de la diaspora aussi qui m'ont découvert quand j'ai avec les artistes que j'ai produits au Cameroun, Magasco, X-Malaya et tout ça. Donc voilà, ouais, il y a une sorte de transversalité comme ça de génération qui s'intéresse à cette fameuse date du 25.
Je l'ai dit, tu es là depuis longtemps, en tout cas, on t'a découvert au milieu des années 90. Est-ce que tu arrives à te souvenir, toi, de ton premier contact avec le rap en tant qu'auditeur? Est-ce que tu te rappelles du jour où le rap s'est arrivé dans ta vie?
Ouais, j'étais petit. Mon frère, il était dans une école française au Cameroun, Fustel. Et donc, il était au contact d'amis et camarades qui passaient leurs vacances en France, à Londres ou à New York, et qui revenaient avec des cassettes. À l'époque, c'était la période des cassettes. Je pense que la première cassette qu'il ramène, c'est NWA.
Ok. Le Straight Outta Compton,
exactement.
Ouais, cet album-là. Okay.
Et s'en sont suivis des cassettes de magnétoscope avec des clips.
Avec des clips.
Exactement. Okay. UMTV Rap, etc.
Ouais.
Et donc ça a été mon premier contact. Si mes souvenirs me font pas défaut, c'était NWA.
Alors c'est intéressant que tu parles de clips parce que moi je trouve toi. T'as fait partie de deux collectifs importants dans l'histoire du rap français, Time Bomb et le Secteur A. Et c'était quand même deux collectifs où les rappeurs avaient de l'attitude, avaient du style.
Ouais.
Donc à quel moment toi ça a été important? Est-ce qu'il y a des rappeurs que t'as vus qui ont pu, tu sais, t'influencer en termes de gestuel, de mouvement, de manière de s'habiller? Parce que c'est important dans le rap, ça. Et je trouve que dans le rap français au début, par exemple, sans manquer de respect aux légendes, que moi j'adore IAM, etc., ou Assassin, il n'y avait pas forcément le côté, le look, le style. Et vous, avec d'autres, hein, mais vous avez ramené ça. Est-ce qu'il y avait une influence américaine aussi?
Bien sûr. Moi et nous d'ailleurs, c'est une inspiration essentiellement américaine.
Ouais.
Le premier rappeur qui m'a choqué, c'est LL Cool J. Et le rappeur ensuite qui a été une référence et qui reste une référence pour beaucoup, c'est Jay-Z.
Bien sûr.
Donc tu vois, quand tu après au niveau attitude, ouais, t'avais Method quand il arrive, oui. T'as l'équipe Prodigy et Avok.
Mob
tu
Deep.
Vois, t'as toute cette génération de rappeurs qui venaient avec une énergie tellement forte, à NWA aussi.
Mm-hmm.
C'était vraiment ça. Donc, on a je vais pas dire on a singé, mais l'inspiration première, en tout cas pour moi, c'était les États-Unis en termes d'énergie, en termes de comportement.
Alors, je vais un peu vite, mais il y a aussi toi un premier album que tu sors, qui, on va en parler, est peut-être le premier blockbuster de l'histoire du rap français, porté notamment par un morceau devenu classique.
Je ne peux rien cultiver d'autre si ce n'est la tristesse. Christ, est-ce une manière de me dire que je n'ai pas droit à tout? C'est le cœur qui parle, la main qui tremble sur des feuilles mortes, et une tête qui pense toujours si t'étais en vie. Si t'étais en vie.
C'est loin de toi.
Donc, Si loin de toi, présent sur ce premier album, qui était un morceau qu'on entendait partout et qui, en plus, évidemment, avait une signification particulière pour toi. C'est un morceau en hommage à ta maman. Ce premier album, effectivement, c'était un moment particulier parce que toi, tu commences, il y a Time Bomb, Secteur A, et c'est cet album, il y a tout le monde. Non, mais c'est vrai, il y a quasiment toutes les têtes d'affiche de l'époque. Exactement. Aussi bien au micro que derrière les machines.
Tout à fait.
DJ Mehdi, Jimmy Finger, enfin, toute la crème. Master. Exactement, toute la crème. Je peux même pas citer tout le monde. Est-ce que tu te souviens de l'état d'esprit dans lequel t'es quand tu... Est-ce que toi, t'as l'impression de construire un blockbuster quand tu fais cet album-là?
En tout cas, c'est mon intention. J'ai pas ce mot-là.
Ouais.
Mais mon intention, c'est d'être le premier à pouvoir réunir toutes les grosses têtes de l'époque sur un disque. Et donc, je voulais tout le monde. Je voulais le Sud avec
Ayam.
Je voulais la banlieue Sud avec Rof et Kerry. Je voulais, bien sûr, les représentants du 9-5, Arsenic, Neg Marron. Je voulais la tête de l'époque, Doc Gynéco. Et puis voilà, tu vois, j'ai réussi à les réunir, ce qui prouve le respect qu'ils avaient pour mon œuvre, pour mon talent plutôt, et donc ils m'ont permis de produire cet album qui est devenu une sorte de classique, tu vois, parce que tu sais comment c'est, hein, les albums, quand tu fais un disque, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, tu découvres ce qu'il devient. Et avec les années, c'est une sorte de référence, quoi.
C'est aussi, je crois, le premier âge d'or commercial du rap français, où évidemment le rap commence à être beaucoup joué, notamment à Skyrock, qui devient une radio rap à ce moment-là. Et donc c'est la première période où on commence à avoir plein de disques d'or. Et toi, ton album s'inscrit dans cette période-là aussi. Est-ce qu'à ce moment-là, en plus toi, tu étais au sein du secteur A, qui était couronné de succès, est-ce que vous aviez le sentiment de vivre une époque un peu bénie, un peu dorée?
Quand tu vis la chose, c'est le souvenir d'une époque qui te donne en fait la vraie ampleur de l'époque. Quand tu le vis, bah c'est ton quotidien, donc tu prends les choses de manière normale. Mais avec le recul, tu te dis ouais non, mais en fait ça c'était exceptionnel,
c'était pas normal,
tu vois, c'était pas normal. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on a réussi à faire tout ça parce qu'on était insouciant. Si on avait la conscience de c'est extraordinaire, je pense que ça enlève une sorte de finesse, tu vois, qu'on peut trouver dans les œuvres qu'on a livrées à cette époque-là. Non, on savait pas ce qu'on faisait.
Est-ce que les années 2000, du coup, il y a eu un moment un peu plus compliqué quand justement cet âge d'or-là, la crise de l'industrie du disque, Internet qui arrive et donc il y a beaucoup de piratage, beaucoup de contrats qui sont rendus. Est-ce que les années 2000 ont été plus douloureuses psychologiquement à vivre quand on a justement connu les années fastes de la fin des années 90?
Ouais, clairement. En tout cas, moi, mon histoire, elle est le reflet de ça, de cette souffrance et de cette mauvaise compréhension de la bascule, en fait, mais en tout cas mauvaise appréciation. Et effectivement, et c'était aussi une sorte de changement artistique. Nous, on est venu avec une sorte de musicalité très mainstream, très ouverte, et il a commencé à avoir ce revirement avec, par exemple, Pour ceux, qui est vraiment
de la
mafia qu'un fric, qui a été un symbole vraiment de la bascule vers une autre musicalité.
Ouais.
Après, t'as eu
une autre esthétique.
Après, t'as l'arrivée de le mauvais œil.
Lunatique,
qui était encore plus sombre. Donc, tu avais une bascule comme ça de DA. Et qui fait qu'il fallait, comme en tout temps avec le rap, pour avoir une faculté d'adaptation. Et si tu ne comprends pas que s'adapter est le fin mot qui te permet de rester plus longtemps, tu te retrouves sur le banc de touche.
Bon, en tout cas, je te propose qu'on reparte en arrière, avec un morceau qui a marqué toute une génération, qui est présent sur ton premier album. Deux figures du secteur art réunies sur un titre devenu culte, symbole de la force de leur collectif et de cette époque où le rap français s'imposait partout. Pete Bacardi, notre invité, et Doc Gineco, ensemble avec un message clair: on lâchera pas l'affaire.
Originaire de la terre-mère, où les marmots dansent dans des mares d'eau. Faut dire tous ces colons, y'en a marre d'eux. Regarde nos femmes et notre faune, j'en suis fan, j'ai le faux au cœur, j'te jure. Notre historique ne fait que le coup de fouet. Kunta fuit après avoir baisé les chaînes, il était noir, faut que ça soit significatif. Ouais, Africanti, y'a pas de différence. Si ce n'est qu'il y a une minorité cupide qui prend encore dur, comme foi le silence, tu le poète de Crayon Kera Yaoundé. J'vous convie à un apéritif de canne à sucre, ouais. Si t'es blanc d'être noir, nous on est fiers noir d'être. Une fleur qui perd ses pétales, c'est un problème de racisme. Peut-être destination différente via les mêmes bateaux. Des bordures de cribiche jusqu'à l'île aux belles eaux. Doc qui sait si nos aïeux ont siroté ensemble. Tous dans le même lit puis séparés, t'en en envole d'oiseau.
On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire.
On n'a pas le même destin mais nos galères sont les mêmes.
On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire.
Première classe Doc, communication font la paix.
Non, on se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire.
On n'a pas le même destin mais nos galères sont les mêmes.
On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire.
Première classe Doc, communication font la paire.
Y'a pas de meuf à poil dans mon salon. Pas de pétasse que je connais pas qui bronze sur ma terrasse. Je vais produire Cosette et la schtroumpfette. On fera gagner leur disque à la Sky Roulette. Citer des noms et de toute manière, qu'est-ce que je risque? Des maisons de disques, de l'État ou du fisc. Tous on veut Kéma, la musique, le cinéma, j'ai trop mis de coups pour sortir de ce putain de coma. Trop mis de coups aux politiques et aux zoulous. Ma pose préférée, prendre la fille à quatre pattes. Qu'après l'amour, elle me fasse chauffer les pattes. Comme tu le sais, je suis 100% mulâtre.
On lâchera pas l'affaire et on continue à se battre.
Nous ne sommes pas les mêmes noirs, mais je le suis quand même. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. Tout le monde attend l'album du ministère AMER. Un étranger avec ou sans papier. J'ai le sang trop chaud, trop dur à tempérer. Pas que des racistes en France, même le climat me fait chier. Cette différence n'a pas lieu aux yeux des yeux filles. Que les hommes changent du Kosovo jusqu'en Serbie.
Ouais.
On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire.
On n'a pas le même destin mais nos galères sont les mêmes.
On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire.
Première classe Doc, communication font la paire.
On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire.
On n'a pas le même destin mais nos galères sont les mêmes.
On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire.
Première classe Doc, communication font la paire. Tous dans le même bateau, le 22 mai à l'Olympia, noir, blanc, jaune.
On fumait le même haya.
Et dans ce même bateau se cachait Abdoulaye.
Un clandé tout comme moi, il est faya. On est dans le même bateau.
Dans le même bateau, je te jure.
En ce qui concerne la musique et le fric.
Et le fric.
Prends tes 10% et laisse-toi faire.
Ah ouais.
Allez, viens, on continue nos affaires.
On est dans le même bateau, de place des fêtes à la chapelle. Bougnoul ou Bouja, en nous interpellant, ils nous appellent.
Avec pitch, complote et préviens mes potes. Vas-y, kiffe, sirote, mets des capotes.
Avant-gardiste face aux maisons disques. On craint ce qu'on ignore, mais crois-tu que j'ignore que le secteur est craint? Vu qu'ils n'ignorent pas qu'on est un autre biz. Chez eux, ça craint l'humanité. Groupe de voyageurs sur le bateau.
On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire.
On n'a pas le même destin, mais nos galères sont les mêmes.
On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire.
Première classe Doc, communication font la paire.
On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire.
On n'a pas le même destin, mais nos galères sont les mêmes.
On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire.
Première classe Doc, communication font la paire.
On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire.
Première classe Doc, communication font la paire.
On se laissera pas faire, on lâchera. On lâchera pas l'affaire.
Dans le même bateau.
On lâchera pas l'affaire.
Pas le même destin.
On lâchera pas l'affaire.
On lâchera pas l'affaire.
On se laissera pas faire. On lâchera pas l'affaire.
Ouais, c'est Doc Gineco.
C'est sur l'album de Pete.
Pete Bacardi, Doc Gineco. On lâchera pas l'affaire. Un classique du rap français.
France Inter. Mehdi Maizi. À la régulière.
Alors, Pete, je le disais, donc j'étais avec nous parce qu'il y a la date à l'Olympia, le 25 septembre prochain. T'as fait partie de collectifs emblématiques du rap français, notamment du secteur A, qui est peut-être le plus grand label de l'histoire du rap français. La question se pose. On parle beaucoup de Kenzie, qui était le boss, et on dit beaucoup, notamment, enfin, moi je l'ai pas connu, je connaissais son nom, bien sûr, j'ai vu quelques interviews de lui, il n'y en a pas beaucoup, qu'il était en avance, que c'était un Américain dans un rap encore très français. Toi qui l'as côtoyé de très près, est-ce que t'es d'accord avec ça? Est-ce qu'il avait vraiment un coup d'avance sur le reste du rap français à l'époque?
Bah déjà pour la, pour, je pense que je vais affirmer le fait que c'était le premier, le plus gros label rap français. Pour déjà par sa composition,
ouais.
Carsonic, Neg Marron, Minister Hammers, Tommy Passy, Gynéco, etc. Donc c'était, tu vois, à tout point de vue, commercialement, idéologiquement, etc. Ça c'est la première chose. La seconde chose, ouais. En fait, il y a qu'une personne qui a de l'avance, donc une vision, qui peut mettre en place ce genre de choses. Et il y a plein de choses, il y a trop d'anecdotes qu'on a avec Kenzie qui démontrent qu'il avait, il a toujours eu une longueur d'avance sur, tu vois, sur tout le monde. Je me rappelle, à la sortie de l'album d'Arsenic, les mecs, tu vois, ils voulaient, mais le mec, Skyrock voulait, je crois, le titre avec Gynéco.
Affaire de famille.
Affaire de famille. Et Kenzie, il a dit non. Par rapport à l'image, par rapport et ça, je te dis ça parce que nous à l'époque, on n'a pas la,
oui.
On n'a pas la mesure de du positionnement, le marketing, etc. Tu vois, il dit non, ça va être Box avec le mot et Box avec le mot, ça sera le single numéro un dans tous les ghettos.
Box avec les mots pour info, qui est un morceau très rap,
très rap,
un morceau avec Gynéco est plus ouvert.
Plus ouvert, ok. Et effectivement, ça veut dire que Arsenic fait à peu près 200 000 ventes. Que sur le titre Box avec le mot. Tu vois ce que je veux dire? Mais
ouais.
cette subtilité d'appréciation à cette époque-là, tu vois, nous on fait du rap parce que on a juste envie d'être en studio, d'être sur scène. Et on n'a pas la mesure de l'importance du choix du titre, du positionnement, etc. Ça, c'est juste une petite anecdote que je te donne, qui démontre déjà la maturité que lui pouvait avoir et la vision qu'il avait pour chacun des artistes. Neg Marron, il donne ce nom, en tout cas, il conseille à Jackie et Benji, à l'époque Dramatique, d'avoir ce nom pour une raison. C'était leur manager à l'époque. Il y a une histoire, il y a un truc. Moi, mon positionnement, même sur le fameux titre Si loin de toi que je veux pas sortir, c'est Kenzie qui me dit, écoute, à partir du moment où tu as fait ce titre et qu'il est sur ton album,
assume-le.
Bah, assume-le. Ça veut dire que, et il me dit, faut que tu saches que tu es, c'est très couillu, excuse-moi du terme, ce que tu as fait. Parce que dans le rap, on n'a jamais vu un mec de cité assumer autant sa fragilité et sa vulnérabilité. Donc ça, là, c'est une première et tu vas voir ce que ça va te ramener comme effet positif. Et 25 ans plus tard, on voit toujours les effets. Donc c'est pour affirmer ouais, que c'était un visionnaire, il était en avance.
Quand on parle du secteur A, il y a évidemment plein d'albums, plein d'artistes. Et il y a aussi... un moment important, c'est le fameux show à l'Olympia en 1998 pour les 50 ans, 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, qui est vraiment un live, qui est un album aussi live, qui est devenu classique aussi pour les amateurs de rap français. Quel souvenir t'as de ce moment en particulier?
Écoute, moi, j'étais malheureusement pas sur la scène parce que je venais d'intégrer le secteur A et j'avais pas encore je sortais de Time Bomb. J'avais intégré Secteur A via Première Classe. Et j'avais juste fait On fait les choses. Et là, si tu te rappelles, c'était vraiment toutes les œuvres qui étaient sorties. Et donc, moi, je l'ai vécu en tant que privilégié.
Que jeune.
Jeune rookie de l'équipe, mais en tant que privilégié, parce que je faisais partie de l'équipe. J'avais tous les avantages, si ce n'est que j'étais pas sur scène. Et c'était un moment fort. Tu vois, très, très, très fort. C'était un moment très fédérateur. C'était l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, mais c'était aussi une sorte de. Ça fédérait pas que les Noirs en fait, ça fédérait toutes les origines sociales qui se sentaient représentées par le secteur A, qui était majoritairement noir, mais qui était aussi une des ambassadeurs d'une sorte de minorité. Donc ouais, c'était quelque chose de grandiose.
En tout cas, ce soir, on est avec Pete Bacardi qui sera à l'Olympia justement le 25 septembre prochain. Pete, on a parlé du secteur A, mais effectivement, tu étais dans Time Bomb juste avant. Comment tu passes de Time Bomb à secteur A?
En fait,
je veux la vraie histoire complète, on a le temps.
Ouais, t'inquiète. En fait, moi je suis, il y a Time Bomb, donc t'as Lunatic, X-Men, Oxmo, Jedi et moi.
Non mais déjà, incroyable. Non mais c'est fou quand même.
Mais tu vois, une fois de plus, tu vois,
oui,
quand on se retrouve dans ça, nous, personne de nous ne...
Oui, personne ne se dit c'est génial ce qu'on a.
C'est extraordinaire. Ouais. C'est des années plus tard qu'on se rend compte qu'en fait, c'était...
Ça n'avait pas de sens.
Ça n'avait pas de sens. Et donc, à un moment, ça se split. Moi, je reste chez Time Bomb avec Oxmo. Oxmo signe chez De La Belle et il sort son premier album. Il travaille sur la sortie de son premier album.
Puccino.
Et moi, j'ai le sentiment que j'ai ma place aussi. Et une fois de plus, c'est avec le temps que je comprends que il y avait pas de plan, en tout cas dans l'immédiat pour moi. Et je rencontre Jackie et Benji, Patou et Stéphane, pardon, qui deviendront plus tard mes amis et frères, ouais. Et surtout partenaires dans la
première classe.
Dans première classe. Et ils sont ces deux Camerounais comme moi, et on se croise à La Rochelle. Et donc on commence à traîner ensemble.
Au Francofolie de La Rochelle.
Ah,
okay. Parce que j'ai l'impression
96.
Il y a une année
97.
Je crois que c'est 97. Enfin, j'étais pas là. Ouais. Parce que il me semble qu'il y a une année en 80 où il y a tout le rap français au Francofolie de La Rochelle, qui est assez incroyable.
Ouais, c'est 97.
Okay.
C'est 97. Et donc on commence à traîner ensemble. Et donc en traînant ensemble, il m'interroge sur ma situation. Business, etc. Je leur dis, voilà, je suis chez Time Bomb, mais bon, voilà, je me sens un peu délaissé. Ils me disent, écoute, nous, on veut bosser avec toi. Nous, on est proche du secteur A, on est régulièrement avec Jackie et Benji, on aimerait bien bosser avec toi. Et donc, moi, j'en parle à Mars. Il me dit, ouais, moi, j'ai pas de problème.
Donc Mars, qui était
un des boss de Time Bomb à l'époque, il me dit, vas-y, j'ai pas de problème, mais il faut racheter le contrat. Parce que, pour différentes raisons. Et moi, j'en parle aux autres, ils me disent, ok, on rachète. Et donc c'est comme ça qu'on je deviens le premier transfert du rap français. et ensuite dès que je quitte Time Bomb, mais on monte le label Première Classe. Mais il faut savoir que quand on fait les choses, on n'a pas encore la structure Première Classe. Et si tu te rappelles, dans le couplet, je fais Time Bomb Première Classe pour le Nord Sud Est Ouest. Je suis vraiment le cul entre deux chaises parce que je sais pas si partir. Je ne sais pas si partir, c'est la bonne idée, mais en même temps, j'ai l'opportunité Sector A qui est en train de tout exploser, donc voilà, c'est ça.
Alors, tu parlais de Première Classe. Première Classe, c'est un label, et c'est aussi des compilations, notamment le volume 1, même le 2 aussi, mais le volume 1 qui est particulièrement mythique, ouais. Où tu avais un morceau solo dessus.
Tu me traites de chien, j'accepte. De bâtard, j'accepte. Mais est-ce qu'en m'écoutant, t'as pu éjecter? Alors ta gueule n'a pas de chance, j'en ai eu qu'une, j'ai su la saisir, faut que tu comptes avec moi. Ça te fasse plaisir ou pas? On n'a pas de chance, j'en ai eu qu'une, j'ai su la saisir, faut que tu comptes avec moi.
Compte avec moi de Pete Bacardi, présent sur PC.
Toi, tu vas dans les. Hein? Parce que ça, c'est pas évident.
Bah, c'est
les
pas
gens,
évident.
En général, quand ils parlent pas de ce titre. Ils parlent d'on fait les choses ou l'art de la guerre.
Alors. Ce qui va m'amener à une autre. Moi, je pense que quand on parle des. Il y a eu un âge d'or des compilations dans le rap français.
Mmh.
Avec beaucoup de compilations. Moi, je pense sincèrement, c'est pas pour. Ma préférée, c'est Première Classe Volume 1.
Ouais.
Donc, je l'ai énormément
écouté. C'est ma préférée. Par rapport aux deux. Si on doit comparer les deux compiles, je préfère la première.
Mais moi, je vais plus loin que ça. Pour moi, c'est ma préférée de toutes les compiles de l'histoire.
Okay.
C'est pour ça. Donc, tous les morceaux, je les connais vraiment. Enfin, bref, le métier rentre.
Ouais.
Ce morceau est incroyable.
Ouais.
Est-ce que pour toi, c'est la meilleure compil de l'histoire du rap français ou pas?
Bien sûr.
Mais il y avait aussi, tu sais, c'était un, mine de rien, indépendamment de ça, c'était un moment des compilations. Il y en a encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était presque un passage obligé. Tu sais, il y avait les BO pour la haine, moi, c'était Va Craquer, qui sont des compilations à part entière, Hostile, PC et d'autres, hein, Street Lourd un peu après.
Ouais.
C'était vraiment quelque chose qui était important.
C'était un tremplin, en fait.
Ouais,
comme on n'avait pas encore la dimension radiophonique, les radios spé qui avaient un impact, ou plus tard le digital, la compilation était un moyen de réunir des artistes nouvellement venus et anciens, et qui permettait de donner une tribune et donc d'avoir une sorte de visibilité.
Ouais.
C'est vrai que c'était à cette époque-là, les compilations avaient pignon sur rue, et nous, notre volonté surtout, c'était de pas faire comme les autres et de réunir tout le monde. De ne rien scinder. Ne pas se dire qu'on fait juste une compilation 9-5 ou une compilation en rapport avec un film ou etc. C'était de se dire, ok, quel est l'état du rap aujourd'hui? Est-ce qu'on a déjà eu une compilation sur laquelle on va avoir IAM, Kerry, Pete, Arsenic, tu comprends ce que je veux dire? À l'époque, il y avait Sniper, tu vois, j'en oublie, Ekwe, Kazé.
Moi, j'avais même l'impression qu'il y avait une forme d'axe. 95, on va dire Sarcelles, Marseille. Je trouvais qu'il y avait une forme de, parce qu'il y avait un peu une forme de rivalité, bien sûr, IAM NTM, donc un peu Marseille-Paris. Mais en fait, vous étiez parisien, il y avait cette complicité, je trouve, avec les gens d'IAM. J'avais le sentiment, ils sont sur ton album, Pacis, Tommy sont sur Sad Hill, compilation ouais. DJ Cops, membre d'IAM.
Et c'est Akhenaton qui réalise le
Pacis, l'album Les Tentations, qui est un album extraordinaire, ouais. qui vieillit très bien d'ailleurs.
Très bien.
Il y avait un truc avec Marseille, non? J'ai l'impression que vous vous entendiez particulièrement bien avec AKH et les autres.
Ça continue même d'ailleurs, ouais. tu vois. J'ai eu la chance de faire le Vélodrome avec eux. Et effectivement, il y a toujours eu, humainement parlant, une très bonne accroche avec Marseille. On a voulu avoir une représentation d'NTM sur le volume 1. Il y avait Busta qui était à l'époque, je crois, chez Format People, mais on s'est vu refuser l'autorisation de pour les raisons que tu peux connaître. Il y avait une sorte de rivalité qui nous a empêchés de les avoir sur le projet. Effectivement, s'il y avait la représentation d'NTM, là, on aurait eu tout le monde.
On parle beaucoup du premier album, mais il y a aussi un deuxième album, Le Poids des Mots, qui sort en 2004, si je ne dis pas de bêtises, porté 2002 autant pour moi, porté notamment par Enfants du Ghetto.
Vibrer la dance soul.
Sur l'album Le Poids des Mots, qui était aussi un album assez inspiré, je trouve, par le rap new-yorkais de cette époque-là, Jay-Z, The Blueprint, les voix pitchées, les samples de sol. T'étais là-dedans
à ce moment-là. C'est exactement ça.
Ouais.
Un peu trop, même.
Je sais pas, mais en
tout cas. Un peu trop, parce que pour le coup, quand je sors cet album en 2002, musicalement, c'est une bascule trop. Comment dire,
brutal.
Trop brutal par rapport à ce que j'ai pu faire avant. Et c'était un risque parce que il m'a été, tu vois, conseillé de continuer de construire quelque chose. Mais moi, j'avais cette obstination de vouloir, faire ce que mon inspiration du moment me demandait de faire. Et au détriment d'une logique commerciale, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Ça n'a pas eu. Alors j'ai vendu beaucoup de disques, mais je n'ai pas eu le même impact que le premier album.
Ouais. Alors Pete, je l'ai même pas dit, mais on a beaucoup de chance, c'est que tu vas nous gracier d'un live aujourd'hui. Je t'invite à te mettre en place.
Okay.
Pete Bacardi qui va nous jouer maintenant le morceau Feu, qui est un morceau qui est déjà qui est sorti avant l'été, si je ne dis pas de bêtises, qu'il jouera probablement à l'Olympia le 25 septembre prochain. Pete Bacardi à la régulière pour un live. C'est d'ailleurs un des premiers lives de la saison. On a vu un live de Vald et de Maïro, bien sûr, dans la régulière XXL, mais dans le format standard, c'est le premier qu'on a. Pete, est-ce que tu es prêt?
Toujours prêt, je suis né prêt, moi.
Waouh, j'adore ça. Let's go. Pete Bacardi, Feu.
Yes. C'est réel. C'est réel. 2025, 25 septembre à l'Olympia. Ça va être le feu. Hey, nourri aux alocos, poulet rôti. À chaque euro, je me rapproche d'un rôti. La rue a peu d'amis, plein d'intérêts. Ténor du rap, je suis comme Pavarotti. Plus Bottega que Nino Cerruti. Plus Berluti que CP Zanotti. Je suis avec Gorba au Forti Forti. Entouré de go qui en fait le pot à poti. Vrai en amour, en amitié. Même dans ma manière de faire le métier. Autodidacte, pas héritier. Trou de balle intact, tu peux vérifier. J'ai fait time bomb, j'ai fait PC. Je fais des selfies avec des VTC. La vie, c'est qu'un tour, qu'un seul essai. Je viens casser la porte, pas l'agresser.
Bacardi Pipe, tu es un gentleman. Je dégaine le même flow que Tredo. Tu as rescapé de l'âge d'or un phénomène.
Oh.
Me demande pas pourquoi ta feu me mène.
Oh.
Me demande pas pourquoi ta feu me mène. Droit dans les yeux, je dis c'est malin.
25 septembre.
Aéroport d'une Simalène.
L'Olympia.
Ou pas pour moi, c'est la
okay.
même.
J'ai fait mes classes à place des fêtes. J'ai fait des cases, cassé des têtes. On m'appelle la Pipe, car comme un clef. Je voulais de l'espace et de la découverte. Je mets du Bacardi sur des plaies ouvertes. Rien n'est gratuit, y'a que la mort qui est offerte. Paris 19, c'est ce que je reflète. Je m'énerve pas juste, mais au fait. Start and stop et je démarre l'auto. Je me sens fraîche car j'ai fait l'auto. Quoique luxury, pas de gros locaux. Coucou, couvre-feu dans vos locaux. Je sors si nécessaire, je rentre quand la mission est finie. Fuck Dubaï, Marbé. Ce soir, je suis à Paris. Ce soir, je suis à Paris avec Medji. Tu le sais. Ce soir, je suis à Paris. Tu le sais. C'est réel. Le 25 à l'Olympia. Ça sera le feu.
Pete Bacardi, Feu, incroyable, incroyable. Pas de playback, hein.
Non.
Voilà, pas de playback. Pete Bacardi qui sera à l'Olympia le 25 septembre prochain.
France Inter, Mehdi Maizi, à la
régulière.
C'était Pete Bacardi avec nous en live et je suis très heureux. Pete Bacardi, on l'a dit, t'es là depuis quelques années, ouais. Mais tu continues à sortir de la musique, tu continues à monter sur scène, à remplir des salles. Et je voulais justement qu'on fasse un petit tour d'horizon d'artistes qui sont là depuis longtemps et qui sont encore là. Parce que parfois on dit que le rap est une musique de jeunes, et je pense que c'est vrai, souvent ce sont les jeunes.
C'est une énergie de jeunes.
Exactement. D'ailleurs, je t'ai vu le dire en interview, notamment chez mes confrères de Dose. Il y a un truc, on sent que t'as pas de nostalgie, que t'as un vrai respect pour la nouvelle scène.
Bien sûr.
Mais on peut aussi faire du rap à 40, 45, 50 ans.
Bien sûr.
Et je propose, alors c'est pas une liste exhaustive, mais j'en ai pris trois qui je trouve sont encore très très pertinents aujourd'hui.
Ouais.
Et je commence avec quelqu'un qu'on aime tous, Nas, qu'on ne présente plus, qui en 2020, à 46 ans, a sorti King's Disease, suivi d'un deuxième volume l'année suivante, puis d'un troisième. Succès critique énorme, Grammy à la clé. Preuve qu'un rappeur peut continuer à innover tout en gardant sa plume légendaire. Il a aussi enchaîné avec une autre trilogie derrière, celle des Magic, toujours avec son acolyte Hit-Boy, beatmaker de génie, qui lui a redonné une seconde jeunesse. Yeah. We going ultra black, I got a toast to that, we don't fold the crack. We going occasion, we rose to that, fuck on postal. We going ultra black, watching the global change, hopping the coldest range. Hit boy on the beat, this shit poster slap. We going ultra black, we going, we going. Ça, c'est le morceau Ultra Black de Nas, donc présent sur King's Disease.
Yes.
On a parlé de Jay. Mm-hmm. Mais bon, moi, je pense qu'on peut aimer Jay et Nas. Hein.
Bien
on n'est pas
bien
obligé
sûr,
de, choisir,
bien sûr, bien
de choisir son camp.
Ouais, ouais.
Surtout que maintenant, ils sont redevenus copains.
Ils sont potos. Ouais.
Est-ce que ça, Nas, au-delà de... Bien sûr, j'imagine que c'est un mec que t'as écouté comme tout le monde. Est-ce que ça, sa carrière, sa deuxième partie de carrière, elle peut t'inspirer aussi?
Bien sûr, bien sûr. Il y a... et même Jay dans une autre mesure, parce que Jay continue, même s'il est, il est plus identifié comme homme d'affaires, toujours rappeur mais homme d'affaires, mais sa prestation sur God G de avec DJ Khaled, etc., ça montre que
c'était un événement, ce couplet,
c'était un événement
fou,
tu vois. C'est comme s'il avait sorti un album tu vois, avec un couplet de 4 minutes. Et c'est symptomatique de quelque chose, tu sais. Pendant longtemps, on a voulu délimiter l'âge d'un rappeur. Sauf que le rap, c'est de la musique.
Mmh.
C'est de la musique, et je suis tenté de te dire que, par exemple, l'exemple que t'as donné sur Nas, ça, c'est significatif de quelque chose. Aujourd'hui, le rap, c'est un peu le jazz de nos parents. Tu vois? C'est-à-dire que les personnes que nous sommes devenus, en tout cas les gens de notre génération, sont des personnes qui ont des positions, qui ont des vies sociales pour certains rangées ou même pas, mais qui ont grandi avec cette musique. Donc c'est leur musique, tu vois, c'est pas un phénomène de mode, c'est leur musique. Donc ils se font un plaisir d'aller à un concert philharmonique de Nas ou de Rick Ross, pardon, ou d'Oxmo, ou de quelqu'un d'autre qui pourrait donner cette forme à son spectacle. Donc c'est comme ça que je vis la chose. C'est pour ça que je suis pas nostalgique, parce que comme naturellement les choses sont évolutives, et le rap aussi. Alors il y a la proposition qui était d'antan n'est pas celle d'aujourd'hui, mais ce n'est que normal.
Moi, je pense que t'es pas nostalgique parce que t'es pas aigri aussi.
Ouais, je suis vraiment.
Parce que des fois, et je peux comprendre, des fois c'est con, mais il y a des artistes qui étaient de notre époque et qui parfois on peut avoir un peu d'aigreur parce que peut-être que leur carrière s'est pas passée comme ils le veulent, et c'est légitime.
C'est parce qu'il.
Et toi, je sens qu'il y a pas d'aigreur chez
toi. Mais tu sais pourquoi? Parce que un, il faut de l'humilité pour accepter, et la deuxième chose, faut accepter que c'est plus dur. Et c'est plus facile de faire ce qu'on faisait à l'époque. Aujourd'hui, s'adapter à la musicalité nouvellement emmenée par le rap, mais c'est dur. Donc plutôt que de se faire violence et de faire ce travail-là que le rap demande, il y a une phrase de Lino célèbre: le rap, c'est un sport de sang, t'es en chien si tu sors du ring. Effectivement, si tu sors du truc, bah, tu vas perdre la technique, tu vas perdre le cardio, etc. Mais et tous ces mecs-là qui disent ouais, le rap c'était mieux avant, je déteste cette phrase de le rap c'était mieux avant, parce que ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mecs qui rappent aujourd'hui ne sont pas dignes de d'être considérés comme des rappeurs. Mais Jean il rappe aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un nouvel artiste, mais il rappe.
Ouais, ouais.
Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça veut dire quoi, le rap c'était mieux avant?
Ouais.
Le rap c'est bien quand c'est bien fait, en toute époque. Et je pense qu'à un moment donné, faut qu'on arrête de se faire nous-mêmes du mal à notre musique en voulant comparer. Alors oui, si jamais t'es friand de lyrics, mais ouais, va chercher des lyricistes. N'attends pas d'un mec dont la DA, c'est l'énergie, n'attends pas de lui qu'il te propose quelque chose de lyricalement profond. C'est tu vois, c'est de ces attentes-là que naissent ces déceptions. Si tu es cohérent avec tes attentes, mais va avec tes attentes, cherche des artistes qui te donnent ce que tu as envie d'avoir. On va écouter les albums des années 90, mais permettons, tu vois, que cette musique, elle s'exprime et qu'elle grossisse encore le plus possible.
Autre exemple, toujours américain, Pusha T, qui a attendu la quarantaine pour décrocher son premier numéro 1 au Billboard avec It's Almost Dry, produit par Kanye West et Pharrell. L'album est salué pour son écriture précise, son univers unique. À 45 ans, il prouve que le temps peut donner encore plus de poids aux mots et il vient de remettre brillamment les couverts avec Let God Sort Him Out, le dernier album d'Eclipse, duo qu'il forme avec son frère Malice. Imaginary players aiming coach right. Master recipes under stove lights. The number on his jersey is the quote price. You order Diet Coke, that's a joke, right? Everybody get it off the boat, right? But only I can really. Moi je te le dis, Pusha T, pour moi aujourd'hui c'est le mec qui rappe le mieux au monde. C'est mon avis. C'est mon avis.
Non mais écoute. Bon, je vais pas dire le mieux au monde.
Mais c'est mon humble avis.
Il est franchement, il est dans le top 5.
Ouais.
Des très bons rappeurs.
Il est trop fort.
Il est trop, trop fort.
Et j'ai l'impression que plus ça va, plus il est fort.
Ouais. Parce que leur album, là, c'est une masterclass. Hein.
Complètement.
C'est incroyable.
Exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire.
Et j'ai l'impression, excuse-moi, de te couper pour revenir à l'édition qu'on avait tout à l'heure, j'ai l'impression qu'au State.
La question se pose moins.
Elle se pose pas. Parce que culturellement parlant, on s'en fout de. Et j'ai même l'impression que plus t'es OG, plus on te témoigne un respect de fou, tu vois.
Je pense qu'il y a aussi une question d'attitude. Tu vois, Pusha T, l'attitude qu'il a, comment il habille. Il vend encore du rêve, pour les jeunes. Ça joue aussi, je pense.
Vrai. Être dans l'air du temps.
Exactement. Tu as raison. Et puis en France, rapidement, mais je suis obligé de le citer, on a l'exemple d'Akhenaton, qui continue encore à sortir de la musique, et qui en 2014, à 46 ans, sortait l'album Je suis en vie, que j'aime beaucoup. Un album qui respire évidemment la maturité, avec cette capacité à mêler réflexion, spiritualité et regard sur la société. La critique avait salué ce disque comme un travail d'adulte dans un rap qui avait grandi. Depuis, Akash continue de sortir des projets, que ce soit en solo ou avec son groupe IAM. Trop d'honneur pour s'abaisser à faire les poches. Voyou finit par rimer avec paix et pioche. Belle et moche, mon histoire oscille entre les deux. Un jour il a fallu que je me décide entre mes jeux. Alors que tu pensais que tout était figé, qu'avec la montre aussi. Voilà.
Est-ce que quand tu entends, tu as l'impression que c'est quelqu'un de l'âge qui est là qui... Non, c'est bien.
C'est bien.
Tu vois ce que je veux dire? Je ne calcule pas l'âge.
Complètement.
C'est est-ce que je vibre? Tu vois ce que je veux dire? Et je sais pas si ta liste est finie de...
C'est fini, mais on aurait pu en citer plein d'autres, bien sûr.
Par exemple, t'as Booba, t'as Rimka.
Bien sûr.
T'as tout à l'heure, je parlais de Medine, qui est de la génération en dessous de nous, mais qui continue. T'as Hoax, le dernier titre qu'il a sorti avec Thury, c'est une tuerie.
Alors, c'est génial parce qu'on va... J'ai prévu qu'on l'écoute après.
Ah ouais, non, voilà, ce morceau-là, c'est une tuerie.
Ouais.
C'est une tuerie.
C'est un jeu de mots avec le fait qu'il y ait tuerie dessus, ou même
pas, j'ai pas fait exprès, mais tu vois, pour le coup, tu vois, c'est de circonstances. Mais franchement, il faut une fois de plus. Après, je pense qu'on a d'autres choses à se dire, mais il faut qu'on accepte les choses telles qu'elles sont. On parlait des trucs, même Dossé. Dossé, c'est la génération en dessous de moi, mais il continue de rapper.
Bien sûr, et il continue de s'améliorer.
De s'améliorer avec le temps. Et c'est ça. Faut qu'on comprenne que le rap. Et j'ai l'impression même qu'on est 10 fois plus fort en prenant de l'âge.
J'aime bien ce que tu dis. En tout cas, ce soir, on est avec Pete Bacardi dans À la régulière. Alors Pete, il y a bien sûr l'Olympia, j'ai failli faire un lapsus, l'Olympia le 25 septembre prochain, je suis obligé de poser la question.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un nouvel album?
Bien
Est-ce
sûr.
Qu'il y a des nouveaux morceaux? Donc,
Ben déjà, j'en ai sorti 4, j'ai sorti Chiffre Romain.
Tout à fait, avec Dossé.
Avec Dossé, j'ai sorti Feu, que j'ai interprété, j'ai sorti un titre qui s'appelle Billionnaire. Faut savoir que
parce que ça c'est ton compte en banque, c'est pour ça. C'est, tu voulais dire à tout le monde. Non,
ça c'est mon aspiration. musicalement sur Chiffre Romain et Billionnaire, j'ai été accompagné par Tariq Azouz.
Oui. Donc il y a un beatmaker extrêmement fort et qui a notamment produit pour Jay-Z,
DJ Khaled, Rick Ross, Lil Wayne, etc. Et le dernier titre que j'ai fait, c'est Ambition. qui est produit aussi par un beatmaker. Ils sont trois. Il y a Bone Collector, Explosive et Haze.
Ok.
Voilà. Donc c'est voilà, ce sont les quatre titres que j'ai sortis et qui sont qui vont faire partie d'un projet que je vais annoncer bientôt.
Ok. Moi, je suis obligé de revenir sur une partie de ta carrière parce que c'est un projet que j'avais beaucoup aimé. Et qui, je sais pas, tu vas me dire ce que toi, moi j'étais plus jeune, j'étais moins dans le milieu, mais que j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais l'impression qu'il n'avait pas été autant apprécié qu'il aurait pu l'être, c'est le projet de Noyau Dur. Noyau Dur, c'était un projet collectif, un de plus, avec les Negmarons, avec Arsenic, avec toi.
Ouais.
Et je l'aimais vraiment, j'aimais beaucoup ce projet, je l'attendais.
Ouais.
Et puis j'ai l'impression que ça n'a pas eu cet impact-là, peut-être parce que, encore une fois, c'était l'époque, milieu des années 2000, compliqué. Quel regard t'as sur ce projet ?
Je pense qu'on s'est trompé sur un point de vue marketing. Le premier titre de Viens qu'on met en image, le premier titre de Noyau Dur qu'on met en image, c'est le titre Viens, qui a une musicalité très dancehall, qui est une couleur qu'il y avait sur l'album, étant donné qu'il y a Jackie et Benji, mais qui n'était pas représentative de l'album. Dans l'album, il y a des titres comme On sera jamais pareil, comme Département, Besoin d'ennemis, qui était plus en adéquation avec, comme je disais, la transition d'EA de l'époque. Mais il s'avère que nous, on avait l'ADN, même si je n'aime pas dire ça, on avait l'ADN Sky, ce qui fait que on avait Skyrock. On avait on n'avait pas switché sur le développement qui était redevenu plus terrain. Et donc on a opté, je dis on parce que c'était nous et la maison de Scud, même si on avait des désaccords, on a opté pour un développement radio. Sauf qu'il fallait faire un développement rap terrain.
Je propose en tout cas qu'on écoute un extrait de cet album, le morceau L'histoire continue.
Hey, on a le groupe poussé par l'envie de changer le monde. Foutre le souk, on a pris un pas sur le doute. On continue la route comme les 22 mai à l'Olympia, donner la chair de poule. Une nouvelle page s'ouvre chez nous, pas nous. On s'est encaissé. Est-ce qu'on fait de mieux, se rendre les coups.
Sur la. Là, on vient de t'entendre rapper. Sur la plume, comment on garde une plume affûtée? Surtout qu'en plus, toi, on t'a pas entendu, en tout cas, notamment en France pendant longtemps. Donc on peut se dire. Moi, j'ai toujours entendu que le rap, c'était un sport qu'il fallait écrire, rapper tous les jours. Peut-être que ça a été ton cas, mais comment on reste en forme?
Ouais. En fait, j'ai toujours continué d'écrire, mais le fait de ne pas être actif m'a enlevé la forme. Tu vois, l'écriture, elle est restée, mais la forme, j'ai pas...
Il manquait la compétition.
Oui, il manquait la compétition, parce que quand t'es en compétition, ça challenge, j'étais obligé de trouver le flow, le truc pour rester dans l'air du temps.
Okay.
Mais j'ai toujours écrit.
Je propose en tout cas, t'as parlé du dernier morceau d'Oxmo avec Thury.
Ouais.
On va l'écouter. Oxmo a annoncé que son prochain disque, La Hauteur de la Lune, serait le dernier de sa carrière. Mmh. Un album très attendu donc, qui s'annonce comme une sortie en apothéose. Pour l'occasion, il a convié la nouvelle génération et notamment Thury pour un morceau qui porte bien son nom, Magique, un extrait en avant-première de ce projet forcément un peu historique.
Laisse tomber la pluie, petit. Pas assez de soif ni d'appétit. Tu vaux que dalle face à tout ce bruit. Tellement de galères téléphonées, à force de les voir venir, je fais l'étonner. Le bonheur, c'est pas le cul, ni les thunes, le manque d'amour fait de nous des sujets d'études. Je relève tous les défis, terre plate, fusée, typhus, info diffuse. L'usine d'à côté privatise l'eau, cause des maladies chroniques et on oublie tout à Noël. Ce soir il pleut, qu'est-ce que t'es belle, mets ton pyjama, on sort pas de l'hôtel.
Je suis juste un super héros devant une supérette qui refait le monde autour d'une cigarette magique. Tout est magique, tout est magique. Quand tu sais confier tes secrets à un piano.
Bad boy avance, bouche close. Ceux qui n'ont rien fait ne parlent jamais bien de ceux qui font les choses. Pas de seconde à perdre, laisse-moi kiffer tranquille. Trop de causes défendues me font siffler. Donner son avis, tout le monde s'y met. L'art est difficile, les postes font s'y mettre. Quand on pourrait se taire. À l'heure où je te parle, une bombe est larguée quelque part. Si 30 likes valent une vie. Clique pour la planète, ramasse les paillettes, rien dans l'assiette. J'suis né au bord du désert, un jour de pluie. Y'a ce qui t'inspire et ce que le sort te réserve.
J'ai juste eu le temps d'éteindre la putain de mélco. Et 9 mois après, je marche sur des l'écho. J'entends les noms d'oiseaux que l'on prête à tous ces poètes.
Aïe, aïe, aïe.
Je suis juste un super héros devant une supérette qui refait le monde autour d'une cigarette magique.
Oxmo Puccino et Turi, magique, premier extrait du prochain et dernier album d'Oxmo, La Hauteur de la Lune.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Ce soir, on est avec Pete Bacardi, qui sera à l'Olympia le 25 septembre prochain pour une date qui s'annonce spectaculaire.
Très spectaculaire.
On te connaît forcément, il y aura des guests, il y aura plein de gens, c'est sûr.
Ouais,
d'ailleurs, il y a déjà des guests que tu as commencé à annoncer sur
les
réseaux.
Arsenic.
Juste I am Arsenic. c'est l'heure des recommandations.
Ouais.
J'ai demandé des recommandations, tu m'en as envoyé deux,
d'accord.
Notamment un artiste que j'aime beaucoup, que je connais, contrairement au deuxième, et tu vas pouvoir nous en parler. Le premier, c'est Jay Brownie.
Ton Chanel Ban, erreur dans la zone. Et prête pour moi les anglais rose chrome. Rejoins-moi, ce soir je te own. You are mine. Baby oil, avant de lui casser le dos. Mais cop on flic, elle fait sa bête, bitch. Bouge ton body, baby, track a form.
Les voisins. Ça, c'est le morceau rose chromé de Jay Brownie. Pourquoi Jay Brownie?
Parce que c'est un tueur. Je trouve que dans cette nouvelle proposition R&B, il a tout. Et comme quand un artiste me plaît, je m'intéresse un peu à ce qu'il fait, je regarde ses interviews, il a des vraies références, il ne chante pas parce que il veut streamer, il chante vraiment parce qu'il a une âme d'artiste.
Ouais.
Et je trouve qu'il écrit très bien, que sa voix, il a une émotion de ouf et techniquement, c'est dingue et il s'adapte à tout style de musique.
Est-ce que ça te manque un peu les collaborations entre rappeurs et chanteurs R&B, puisque il y a eu un moment l'autotune à la fin des années 2000, qui a donné des très bons morceaux, très bons albums, mais qui a un peu invisibilisé parfois les chanteurs et les chanteuses qui étaient souvent appelés. Et toi, t'as fait beaucoup de morceaux comme ça. Vous avez fait beaucoup de morceaux comme ça. Est-ce que ça te manque les collabs, les refrains chantés?
Je vais pas dire que ça manque, mais effectivement, maintenant que tu m'en parles, je me rends compte, comme il y a du chant de manière permanente, j'ai pas le temps d'identifier un manque. Mais maintenant que tu en parles, effectivement, je me rends compte qu'il y a plus beaucoup de collab de ce style-là.
Réinvitez-nous Karine au refrain. Jimmy Fissoko. Et autre recommandation que je ne connaissais pas en l'occurrence, Finn Jolie.
Je pense qu'il y a un truc qui cache. L'amour me rend tellement beau pour ça que je suis moche. C'est quand si je pense à moi, coupe la torche. Y'a que quand je suis dans le noir que je quitte le cauchemar. Je pense qu'il y a un truc.
Alors, qui est Finn Jolie?
Alors, Finn Jolie, c'est un... parce que j'ai un label. J'ai un label. Pendant toutes ces années, quand je n'œuvrais pas au devant de la scène, j'étais en off et je produisais. J'ai produit pendant 10 ans au Cameroun sous le label Empire Company. J'ai produit essentiellement des artistes camerounais. En 2020, j'ai intégré le Universal Music Africa en tant que directeur du label et publisher.
Tout à fait.
D'ailleurs, je peux me targuer d'avoir signé Imra à l'époque sur Def Jam Afrique.
Qui est un rappeur ivoirien dont on parle énormément maintenant.
En ce moment.
C'est toi qui l'as signé?
Ouais, c'est moi qui l'ai signé. Ouais. Chez Def Jam en tout cas. Après, je pense qu'il est parti. Ouais, il est parti parce qu'il est en Inde aujourd'hui. Et après Universal, j'ai créé un nouveau label qui s'appelle Gold Prod, sous lequel je produis mes nouvelles œuvres et sous lequel je produis aussi Finn, qui est un artiste franco-ivoirien. Et que je trouve très fort parce que moi, ce que j'admire chez un artiste, c'est sa diversité, sa capacité à pouvoir me toucher, que ce soit musicalement, vocalement ou sur un point de vue écriture. Et lui, sur un point de vue écriture, il est très très fort. Et il a une diversité musicale qui me plaît. Et j'ai décidé de l'accompagner et de le produire.
ce rôle de producteur, notamment quand t'as dirigé Universal Music Africa sur la partie publishing, c'était naturel pour toi de le faire, ça a été compliqué, c'est autre chose, c'est vraiment, en plus c'est pas comme produire ton propre label, mmh, là, t'es dans des bureaux, t'as des équipes, tu dois manager. Est-ce que t'as aimé cette expérience-là?
J'ai aimé parce qu'elle m'a appris sur moi. C'est compliqué parce que effectivement j'ai toute ma vie été indépendant et j'étais pas assujetti à une autorité. Et donc ouais, fallait que je deal avec ça. C'était pas la chose la plus évidente pour moi. J'ai quand même Dieu m'a fait grâce de faire preuve d'intelligence de gestion humaine qui me permet donc de collaborer avec des personnes et de pouvoir faire ma place malgré tout. Alors mais vraiment avec du recul, ouais, c'était pas la chose la plus évidente parce que je suis de nature à être la tête de wagon. Sauf que là, je veux enclencher des choses, mais je me vois confronté à une
des process.
J'ai eu la chance de travailler avec Franck Kakou, qui est l'administrateur anciennement nommé Black Kent.
Enfin,
anciennement, il s'appelle toujours Black Kent.
Qui est un rappeur qui est très populaire dans les années 2000 notamment,
exactement.
Et qui est aussi effectivement qui travaille.
C'est lui l'administrateur, ouais. C'est lui le patron d'Universal Music Africa. Donc j'avais cette chance-là de bosser avec lui, donc. J'avais quand même une marge de manœuvre plus large que la norme, mais l'égide, c'est universel, donc tu ne peux pas faire ce que tu veux faire. Ouais. Et c'est sans dénigrer, mais c'est le principe d'une multinationale, c'est le principe d'une structure de cette envergure, et c'est en ça que, tu vois, mon épanouissement n'était pas optimal. Mais après, c'est toujours de l'enrichissement personnel, parce que tu apprends. Tu apprends des autres, tu apprends des erreurs, tu apprends de tout ce que ça peut t'apporter.
Pete Bacardi, il faut que je te le dise, c'est l'heure de la question qui tue. La question est simple, elle est claire. Pete, quel est le meilleur rappeur de ta famille?
Dossé.
Ah,
ça,
tu
c'est,
dis
ça, c'est, non mais moi je le
donc Dossé c'est ton frère, bien
ouais,
sûr.
Ouais, Dossé c'est mon frère. Je l'assume, hein, et si je suis vraiment pas dans une sorte de posture, je l'assume. Je travaille avec lui là sur mon projet, c'est lui qui est le DA du projet. Je suis impressionné en fait. Depuis le day one quand je l'ai entendu rapper. Je me rappelle, j'habitais à Courbevoie à l'époque. Il a freestylé avec un autre de mes cousins, Narbé, qui est aujourd'hui, qui a compris que le rap c'était pas pour lui. Il a fait de grandes choses ailleurs avec un Pulstar.
Oui.
Quand j'ai entendu Dossé ce jour-là, j'ai compris qu'il avait quelque chose de fou. Et avec le temps, il a prouvé. Et je vois souvent des messages crapuleux qui disent, ouais, mais il est là parce que Pete Bacardi, j'ai rien fait, moi. Je n'ai rien fait.
Oui, c'est pas, il a, non, c'était non, pas un pistonné.
Non, 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 rien. C'est vraiment, ça, c'est pas la carrière d'un pistonné.
De toute façon, pour moi, le rap, c'est comme le sport. Si t'es pistonné, ça se voit. Si t'es pas bon.
C'est pour ça que je dis que ça, c'est pas la carrière d'un pistonné.
Même si tu l'avais pistonné,
s'il aurait pas été bon. C'est l'exemple même de ce dont on parlait tout à l'heure, la faculté à s'adapter à chaque époque et ne pas perdre son essence et de ne pas perdre son impact, ce truc-là, parce que lyricalement parlant, c'est un killer. Et donc, à plusieurs points, je le trouve meilleur que moi.
Balancez-nous un projet commun, non?
Écoute.
Projet entre deux frères.
Écoute, tu sais que après Chiffre Romain, j'ai reçu énormément de messages dans ce sens, mais comme à chaque fois, ce qu'on a fait, on l'a fait naturellement. Donc si on a un projet à faire ensemble, ça se fera naturellement. On va se retrouver en studio, on va faire 5, 6, 7 titres, et on va dire à Oumar, écoute, on a de quoi faire, qu'est-ce que t'en penses, et tu vois, on va...
Oumar qui est donc producteur et manager de Dossé, entre autres. Est-ce qu'il y a un artiste avec qui t'as particulièrement aimé rapper dans ta carrière? Avec qui il y a une alchimie?
Il y en a plein.
Ouais.
Bah, il y a mon frère.
Bien sûr.
Il y a Jackie.
Donc, des Nègres Marrons.
Jackie, des Nègres Marrons. Y a Booba et Ali. Il y a Hawks. C'est Akhenaton.
Akhenaton.
Avec Arsenic. Là, de tête, hein. Alors, j'ai eu beaucoup
d'échecs. Oui, j'ai fait
beaucoup de collabs, mais par rapport à ta question. À chaque fois quand ça a matché très très bien, c'est avec euh, avec ces noms.
Est-ce qu'il y a, parce que je sais que tu as toujours là, est-ce qu'il y a des gens dans la nouvelle génération, tu t'es dit, j'aimerais bien aller croiser le micro avec
Il y a un mec qui m'impressionne, c'est Joe Lagreen.
Joe Lagreen, ok.
Mais il faut que je révise bien mon kung-fu parce que techniquement, c'est une flèche.
Ouais.
Ouais, lui, j'aimerais bien.
Ok. Tu restes, toi, toujours, t'as toujours l'œil sur ce qui se passe dans le rap
français ? Toujours.
Le vendredi, t'écoutes tout ?
Tout. Ben, écoute, j'écoute ce que je peux. Parce qu'il y a un trop plein de références qui fait que je ne peux pas, malheureusement, tout écouter parce que tout n'est pas de mon goût.
Oui, c'est normal.
Mais ouais, tous les vendredis, ouais, je suis à l'écoute.
Ouais, t'as encore ce feu-là,
ouais,
en fait.
Ouais.
Ça fait plaisir.
Et je l'ai chanté d'ailleurs.
Oui, tu l'as chanté exactement, donc la boucle est bouclée.
C'est la passion, hein, je te dis, c'est vraiment. Et comme t'as dit le terme tout à l'heure, je suis aigri de rien du tout.
Ça se voit.
Tu vois, je suis aigri de rien du tout, donc je prends les choses et c'est positif, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ce que je n'aime pas, j'écoute pas. Mais ce que j'aime, c'est une surdose.
Pete Bacardi, c'était un immense plaisir de t'avoir aujourd'hui, vraiment.
Merci.
On rappelle que l'Olympia, c'est le 25 septembre.
Tout à fait.
Qu'un album devrait arriver à un moment aussi. On n'a pas de date, mais voilà, en tout cas, tu nous l'as dit aujourd'hui.
Ouais.
Merci beaucoup, vraiment, c'était un plaisir.
Merci.
Merci aussi aux personnes qui ont préparé cette émission, Alexia Lacour, Redouane Tella, une émission réalisée par Gaëtan Colli. Programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Loïs Moreau et Jérôme Ragano. Merci aux équipes web et vidéo. Pour découvrir ou redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.